l'autre et d'une limpidité.
Oh, d'une limpidité parfaite.
À nul autre pareil.
Vous savez, on n'est coupable que quand on se sent coupable.
Même pas de snobisme.
Non, non.
Pas. Mais si vous me permettez cette question, pourquoi avez-vous choisi Saint-Germain-des-Prés pour vos exercices musicaux? Parce que je crois que vous aimez sincèrement et profondément et passionnément la musique de jazz.
Oui, ça c'est une de mes manies. Mais vous savez, il y a guère que cet endroit-là où on puisse faire de la musique de jazz et conserver un public. Parce que si vous prenez la Bastille, par exemple, à la Bastille, si vous jouez autre chose que de l'accordéon, vous faites tuer. Aux Champs-Élysées, si vous jouez autre chose que de la musique douce, vous vous faites tuer. Et dans les autres endroits en général, si vous jouez autre chose que des sambas, vous vous faites tuer. Il ne reste guère que Saint-Germain-des-Prés.
Alors d'avoir le public que vous avez, vous dites tant mieux, tant pis, ou si ça vous est égal?
Ah, moi je dis tant mieux, parce que c'est un public qui apprécie cette musique-là et qui revient après l'avoir entendu. C'est tout ce que nous lui demandons, c'est de pouvoir continuer le plus longtemps possible.
Mais vous parlez d'or, enfin, sagement, raisonnablement, enfin, de manière à me surprendre encore davantage. Mais entre nous, il n'y a pas parmi votre public des gens qui sont là, mon Dieu, pour faire foule et parce que c'est la mode?
Si, il y a beaucoup de gens qui sont là parce que c'est la mode, il y en a qui viennent voir ce que c'est et qui ne reviennent pas, il y en a qui viennent voir ce que c'est et qui reviennent, et puis nous avons énormément d'Américains.
Et pourquoi était-il nécessaire de s'installer dans une cave?
Ah, ça je ne sais pas, vous savez, je crois que le complexe des caves...
Un tropisme biologique,
ah, enfin... Oui, je crois que ça date de l'occupation, ça, des bombardements. Vous savez, on a tellement pris l'habitude de descendre la nuit dans des caves que...
Mais pendant l'occupation, on ne descendait pas dans les caves. Quand on était bombardé, les Parisiens restaient sur le pas de la porte.
Oh, pas tellement. Non, au fond, ils étaient ravis de descendre dans des caves, c'était une diversion. Et puis, alors, ils faisaient connaissance avec leurs caves. On ne connaît jamais ces caves, vous savez.
Mais vous, M. Borisien, votre ambition personnelle, à vous, quelle est-elle?
Moi, c'est conserver un endroit où je puisse, avec mes camarades, faire le plus longtemps possible la musique de jazz sans concession.
Mmh. Et vous n'avez pas eu trop de malheur jusqu'ici avec les habitants du quartier?
Oh non, à part quelques sourdeaux sur la tête, des têtes de poisson pourri, des tomates, enfin des choses comme des choses plutôt nourrissantes.
Mais il faut souffrir pour l'art.
Ah, il faut souffrir pour l'art.
Quel humour!
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour l'art? Alors en effet, pendant 15 ans, hein, il a promu le jazz qu'il a pratiqué donc dès 1937 au Haute Club de France. Alors ses chroniques, parues dans Combat, Jazz Hot, Art, ont été rassemblées en 1982 dans Écrit sur le jazz. Vous voyez, c'était bien longtemps après son décès. Il a créé des 48 émissions radiophoniques Jazz in Paris, dont les textes, en anglais et en français, étaient destinés à une radio new-yorkaise et dont les manuscrits ont été rassemblés dans une édition bilingue en 1996.
Oui, il a été très actif dans le domaine du jazz. On peut peut-être rappeler que le Hot Club de France était à l'origine un quintet formé en 1934 par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli et que c'était un peu nouveau puisque c'était le mélange d'une musique de jazz et du style manouche, la fameuse pompe manouche.
Voilà, merci beaucoup. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est d'écouter, le début d'une histoire abrégée du jazz. C'est indiqué en matière d'introduction. Et donc c'était un livre disque, 33 tours, voilà. Et ensuite, là, vous pourrez entendre aussi un texte qu'il a écrit sur Duke Ellington en 1958, et qui était un texte pour la pochette de disque.
Très bien. Histoire abrégée du jazz, en matière d'introduction. Le jazz, c'est comme les bananes, ça se consomme sur place, a écrit Sartre quelque part. Opinion très défendable à l'époque où elle fut formulée. Mais Sartre avait compté sans les progrès techniques et l'avènement du micro-sillon haute fidélité. Nous vivons aujourd'hui en un temps où l'on peut transporter les bananes ou les mangues par avion et mettre en conserve le jazz avec toutes ses qualités intactes. Nous irons même plus loin. Tandis qu'un concert reste une performance éphémère, le disque permet, mieux que le contact direct, de se familiariser avec le jazz. Nous avons, par le choix même de ce terme, qu'il y a quelque chose dans le jazz qui risque d'échapper à l'auditeur non informé. Et c'est pour faire de cet auditeur vierge un auditeur avisé que nous nous proposons de l'éclairer, tant par le texte que par le disque, sur le mystère du jazz. Car mystère il y a, tout au moins dans l'esprit d'un certain nombre de critiques qui sévissent à longueur de colonne dans la presse. À l'exception des revues spécialisées et d'un ou deux très rares journaux où le responsable sait de quoi il retourne, il est impossible de trouver dans une publication française un article sur le jazz qui ne contienne pas d'erreurs. Et nous ne parlons même pas des erreurs de jugement que nous n'avons pas à redresser, chacun étant libre de ses goûts, mais de ces simples fautes d'informations grossières qui font d'Ellington un trompettiste, de Béchette un pianiste, de Jerry Mulligan un musicien noir. Mais voilà que nous commençons à citer des gens dont vous n'avez peut-être jamais entendu le nom. Patience, on va vous affranchir, comme on dit dans la série noire. Qu'est-ce que le jazz ? Le jazz est ce qui résulte de l'interprétation par un musicien de jazz d'une pièce musicale prise pour thème. La palissade qui nous ramène immédiatement au problème initial, à cela près qu'il s'agit de définir le musicien de jazz. Mais cette la palissade nous permet de considérer ce problème de la même façon qu'il s'est posé historiquement, car les musiciens de jazz ont fait du jazz avant de savoir ce qu'ils faisaient. Nouveau Jourdain, ils ont créé avant d'analyser. Il en va de même dans tout art. Le besoin de s'exprimer précède l'expression, et l'exégèse vient ensuite. Le jazz est une manière de jouer. Tout comme un grand soliste classique a besoin d'une longue familiarisation avec l'œuvre et la pensée des maîtres pour arriver à devenir un interprète digne de ce nom, le musicien de jazz, ou jazzman, doit posséder une connaissance parfaite, acquise ou partiellement intuitive, des traditions de son art. Et pour donner une idée sommaire, il nous paraît utile de faire un résumé de l'évolution du jazz.
Duke Ellington. Cette composition occupe une place à part dans l'histoire de la musique d'Ellington et l'histoire du jazz tout court. C'est en effet la première œuvre de cette longueur qui a jamais été composée par un musicien de jazz. Et il fallut Ellington lui-même, des années plus tard, pour aller encore plus loin dans cette voie. À l'époque où Duke composa ce que les critiques sont unanimes aujourd'hui à considérer comme un de ses petits chefs-d'œuvre, il venait de subir une perte très douloureuse en la personne de sa mère, depuis quelque temps atteinte d'un cancer inguérissable et qui s'éteignit le 27 mai 1935. Ce fut pour Duke un terrible choc. En outre, il éprouvait certaines déconvenues du côté des studios d'enregistrement. Troublé et découragé, il se rejeta vers la musique. Et c'est alors qu'il composa Reminishing in Tempo, en quoi on l'a pu voir une sorte d'hommage funéraire à Dizzy Ellington. De l'avis même de son auteur, tel qu'il est rapporté par le critique Barry Uranoff dans son ouvrage sur Ellington, voici ce qu'il faut penser de Reminishing. J'ai écrit cette pièce comme une sorte de monologue. D'abord, les réflexions plaisantes. Puis, quelque chose vient vous terrasser. Vous réussissez à vous en dégager et le soliloque s'achève sur une note affirmative. Reminishing in Tempo a été enregistré le 12 septembre 1935 par la formation suivante. Art Wetzel, Cootie Williams, Rex Stewart, trompette, Joe Danton, Juan Tizel, Lawrence Brown, trombone, Bernie Bigard, clarinette, Otto Hardwick, et Johnny Hodges, alto sax, Harry Carney, saxo bariton, Duke Ellington, piano, Freddie Guy, guitare, Billy Taylor et Wallman Broad, basse, Sonny Greer, drums.
Donc voilà quelques... Hop, je baisse un peu.
Quelques références.
Quelques références. Alors, ce qu'on disait déjà tout à l'heure, hein, c'est que son œuvre littéraire, qui a été quand même peu appréciée de son vivant, est saluée à partir des années 60-70. Et l'écume des jours, avec ses jeux de langage, ses personnages à clé, est devenu maintenant un classique, hein, qui est étudié dans les collèges et les lycées. Mais à l'époque, quand il est sorti, ça a fait un gros flop.
Hein. Ah ben, il n'en reviendrait pas.
Hein. Alors, réputé pessimiste, Boris Vian adorait l'absurde, la fête, les jeux. Il est l'inventeur donc de mots et de systèmes parmi lesquels figurent des machines imaginaires et des mots devenus courants. Il a élaboré des projets d'invention originale lorsqu'il étudiait à l'école centrale à Paris. Et donc sa machine imaginaire la plus célèbre est restée le piano Octel, instrument à faire des boissons, tout en se laissant porter par la musique.
On en rêve d'avoir voilà, ça chez soi. Alors Mireille, tu parlais effectivement, il a inventé des mots, moi j'en ai relevé un. Il est l'inventeur du mot tube. Pour parler des titres à succès, c'est quand même mieux que hit, hein, quand même. Et puis pour parler de la Chambre des députés, par exemple, puis parler du députodrome, quelque peu ironique. Et puis il a fait partie avec Raymond Queneau du collège de pataphysique.
Voilà.
Hein, où on faisait des recherches sur l'imaginaire. Sur...
Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter un extrait de L'écume de jour, le chapitre 45, où malheureusement, Colin est obligé de vendre son piano Octel là, pour pouvoir continuer à soigner
Chloé. Alors tendez bien l'oreille, parce que vous allez comprendre la richesse double du piano Octel.
Je reconnais que c'est une belle pièce, dit l'antiquaire en tournant autour du piano Octel de Colin.
C'est de l'érable mouché, dit Colin.
Je vois, je suppose qu'il marche bien.
J'essaie de vendre ce que j'ai de mieux.
Cela vous fait de la peine,
dit l'antiquaire en se penchant pour examiner un petit dessin du bois. Il souffla sur quelques grains de poussière qui ternissaient l'éclat du meuble.
Vous ne préféreriez pas gagner de l'argent par votre travail et pouvoir le conserver ?
Colin se rappela le bureau du directeur et le coup du pistolet de l'huissier et il dit non.
Vous y viendrez tout de même quand vous n'aurez plus rien à vendre.
Si mes frais s'arrêtaient d'augmenter, si mes frais cessaient de croître, j'aurais assez en vendant mes choses pour vivre sans travailler. Vivre pas très bien, mais vivre.
Vous n'aimez pas le travail ?
C'est horrible ! Ça rabaisse l'homme au rang de la machine.
Et vos frais ne cessent de croître ?
Les fleurs coûtent très cher. Et la vie à la montagne aussi.
Mais si elle guérissait ?
Ce serait merveilleux.
Ce n'est pas entièrement impossible tout de même.
Non, bien sûr.
Mais il faut du temps.
Oui, et le soleil s'en va.
Cela peut revenir.
Je ne crois pas. Ça se passe en profondeur.
Il y eut un silence.
Est-ce qu'il est garni ?
Demanda l'antiquaire en désignant le piano Octel.
Oui, tous les réceptacles sont pleins.
Je joue assez bien du piano, on pourrait l'essayer.
Si vous voulez.
Je vais chercher un siège.
Ils étaient au milieu de la boutique où Colin avait fait transporter son piano Octel. De tous côtés, il y avait des piles d'étranges vieux objets en forme de fauteuils, de chaises, de consoles ou d'autres meubles. Il ne faisait pas très clair et ça sentait la cire des Indes et le vibrillon bleu. L'antiquaire se munit d'un tabouret de bois de fer étamé et se mit en place. Il avait retiré le bec de canne de la porte qui, de ce fait, se trouvait muette et ne les dérangeait pas.
Vous connaissez du Duke Ellington ?
Oui, je vais vous jouer le Blues of the Vagabond.
Je le règle à combien ? Vous prenez 3 chorus ?
Oui.
Bon, ça fera 1 ml en tout. Ça va.
Parfait.
Il avait un toucher d'une extrême sensibilité et les notes s'envolaient aussi aériennes que les perles de clarinette de Born et Biggard dans la version de Duke. Colin s'était assis par terre pour écouter, adossé au piano Octel, et il pleurait de grosses larmes elliptiques et souples qui roulaient sur ses vêtements et filaient dans la poussière. La musique passait à travers lui et ressortait, filetait. Et l'air qui ressortait de lui ressemblait beaucoup plus à Chloé qu'au blues du vagabond. Le marchand d'antiquité fredonnait un contre-champ d'une simplicité pastorale et balançait sa tête de côté comme un serpent à sonnette. Il joua les 3 chorus et s'arrêta. Colin, heureux jusqu'au fond de l'âme, restait assis là, et c'était comme quand Chloé n'était pas malade.
Comment fait-on maintenant ?
Colin se leva et ouvrit le petit panneau mobile en faisant la manœuvre, et ils prirent les 2 verres remplis d'un liquide avec des irisations d'arc-en-ciel. L'antiquaire but le premier, en clapant sa langue.
C'est exactement le goût du blues. De ce blues-là même. C'est fort, votre invention, vous savez.
Ah oui, ça marchait très bien.
Vous savez, je vais sûrement vous en donner un bon prix.
J'en serais bien content. Tout marche mal pour moi maintenant.
C'est comme ça. Ça ne peut pas toujours aller bien.
Mais ça pourrait ne pas aller toujours mal. On se rappelle beaucoup mieux les bons moments. Alors à quoi servent les mauvais ?
Si je jouais Misty Morning. Est-ce que c'est bon ?
Oui, oui. Ça rend formidablement. Ça donne un cocktail gris-perle et vermante avec un goût de poivre et de fumée.
L'antiquaire se remit au piano et joua Misty Morning. Ils le burent, puis il joua encore Blues Bubbles et s'arrêta car il commençait à jouer deux notes à la fois et colla à entendre quatre airs différents d'un coup. Colin ferma le couvercle du piano avec précaution.
Alors, on parle affaire maintenant.
Oui.
Votre pianoctel est un truc fantastique. Je vous en offre 3000 doublezons.
Non, non, c'est trop.
J'insiste.
Mais c'est idiot, je ne veux pas. 2000 si vous voulez.
Non. Remportez-le, je refuse.
Je ne veux pas vous le vendre 3000. C'est un vol.
Mais non. Et je peux le revendre 4000 la minute d'après.
Mais vous savez bien que vous le garderez.
Évidemment. Écoutez, coupons la poire en deux, 2500 doublezons.
Allons, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on va faire des deux moitiés de cette sacrée poire ?
Voilà.
Colin prit l'argent et le mit soigneusement dans son portefeuille. Il titubait un peu.
Je ne tiens pas bien.
Naturellement, vous viendrez écouter un coup avec moi de temps en temps.
Promis. Maintenant, il faut que je m'en aille. Nicolas va m'engueuler.
Je vous accompagne un bout. J'ai une course à faire.
C'est aimable à vous.
Ils sortirent. Le ciel bleu-vert pendait presque jusqu'au pavé et de grandes taches blanches marquaient sur le sol la place où des nuages venaient de se fracasser.
Il y a eu de l'orage ?
Ils firent quelques mètres ensemble et le compagnon de Colin s'arrêta devant un bazar.
Attendez-moi une minute, je reviens.
Il entra. À travers la vitre, Colin le vit choisir un objet qu'il regarda attentivement par transparence et enfouit dans sa poche.
Voilà.
C'était quoi ?
Un niveau d'eau. J'ai l'intention de me jouer tout mon répertoire sitôt que je vous aurai raccompagné. Et j'ai à marcher par la suite.
On en rêve du pianoctel, voilà. Hein, quand même.
Voilà, des bons cocktails comme ça.
Bon, évidemment, si on écoute beaucoup de morceaux, on va jouer faux.
On va tanguer un peu après. Alors, outre le pianoctel, Boris fabriquait des mots qui désignaient de réels instruments. Une feuille de papier à cigarette appliquée sur un peigne et vibrant lorsqu'on soufflait dessus devenait le peignophone. Voilà, c'est un genre de casou, quoi.
Un mirliton, voilà. Un casou, oui.
Avec lequel il amusait ses compagnons d'études au lycée. Et plus tard, alors qu'il s'ennuie fermement à l'école centrale, il a travaillé sur plusieurs projets dont il a rédigé avec soin d'ailleurs les dossiers. Alors, bon, donc non seulement il inventait des mots, mais il composait aussi des textes pour des chansons.
Oui, il était très fort dans des tas de domaines. Hein.
Alors, je vous propose d'écouter tout de suite, La Complainte du Progrès, donc, qui a été écrite en 1956 et qui est suivie d'un extrait de film, donc Les Liaisons Dangereuses de Roger Vadim. Ça, c'est en 1959 avec Gérard Philippe et Jeanne Moreau. Et donc, il a un petit rôle dedans, mais du coup, ça permet de le voir. Voilà.
Et puis de mettre du beurre dans les épinards, voilà. Certainement.
La Complainte du Progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gonfle, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait, que l'on se querelle. L'air lugubre, on s'en allait, en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous ? La vie est si chère, on dit rentre chez ta mère, et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi, où je reprends tout ça ? Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauve-savate, au canon à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Juliette, vous ne vous occupez jamais de moi.
Mais je vous aime bien, Prévost.
Ce bien me crève le cœur.
Vous avez un cœur ?
Oui, depuis que Valmont nous a fait rencontrer.
Vous devriez lui être reconnaissant, c'est rare aujourd'hui d'avoir un cœur.
Je le remercie.
En lui prenant sa femme.
Vous n'avez jamais envie de vous venger ?
Pourquoi ? Regardez autour de nous. Toutes les femmes s'ennuient autant avec leurs amants qu'avec leurs maris. Avec Valmont, je ne m'ennuie jamais.
C'est bien ma chance. Il y a encore à Paris une femme fidèle, et c'est la seule dont je sois amoureux.
Un conseil, Prévost. Essayez d'aimer Loulou du chemin.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff.
La voix reconnaissable de Jeanne Moreau, hein, entre toutes. Bon alors, Mireille, t'en as un canon à patates dans ta cuisine ou...
Bah non, j'aimerais bien.
Un repas solimace.
Un repas solimace, on a tout ça.
On a tout ça à disposition.
Alors, en 1953, Boris Vian va rencontrer Jacques Canetti à un concert de jazz à la salle Pielle. Et donc, il va écrire des chansons aussi avec Jimmy Walter. Et dès le mois de février 54, il dépose ses textes et ses musiques à la SACEM. Et un de ses textes avait déjà été enregistré par Henri Salvador. Cependant que Marcel Mouloudji chante Le Déserteur pour la première fois au Théâtre de l'Œuvre. Et en 1955, Boris Vian fait ses débuts de chanteur aux Trois Baudets.
Trois Baudets, oui. Jimmy Walter, c'était son premier pianiste, arrangeur et compositeur. Puis après, il a travaillé avec Gore Aguer, qui... par la suite a été l'arrangeur de Gainsbourg, par exemple.
Et bon, alors pareil, avec Le Déserteur, il a encore eu des boires, hein, parce que c'était interdit de radio.
Bah oui, c'était pas très incitatif pour faire la guerre en Algérie.
Alors, bon, mais c'est quand même aussi le pionnier du rock'n'roll à sa grande...
Surprise.
Voilà, c'est ça. Parce que donc en mai 56, le compositeur Michel Legrand et Jacques Canetti, ils rapportent des États-Unis quelques disques de rock'n'roll. Et ils confient à Boris Vian le soin de franciser ce nouveau rythme. Aussitôt, Boris est inspiré et il crée avec ses complices Henri Salvador et Michel Legrand Rock'n'Roll Mops, qu'il édite sous le nom d'Henri Cording.
Henri Cording, il faut le faire.
Alors, le parolier étant Vernon Sinclair. Bon, évidemment, tout ça, c'est...
Tout ça, c'est bidon. Et le producteur sur le disque, c'était écrit tel que je vais l'épeler, Jacques Canetti, J-A-C-K, plus loin K, et plus loin Netti, un nœud de tigre.
Alors... Donc avec des sonorités donc anglo-saxonnes, hein, le disque se vend jusqu'aux Pays-Bas. Boris est engagé avec un cachet relativement important, mais il ne chante plus. En revanche, il produit plusieurs autres rock'n'roll parodiques.
Oui, alors ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu deux éditions de ce disque Rock'n'Roll Mops, mais il faut préciser que sur la première édition du disque, les gens ont cru réellement que c'était un disque importé. Ils n'ont pas révélé le fait que c'était un pastiche. Et puis ils ont eu un tel succès qu'ils ont réédité le disque en expliquant qu'ils s'étaient amusés à faire des parodies humoristiques de ce qu'allait devenir le rock'n'roll. C'est les prémices sous forme de pastiche. C'est bizarre. Hein.
Alors qu'il n'aimait pas en fait le rock'n'roll.
Non, c'est ça. Incroyable.
Alors là, bon voilà, là on va arriver à des choses plus tristes. Le matin du 23 juin 1959, J'irai cracher sur vos tombes, le film qui est donc inspiré de son roman, est projeté au cinéma Le Marbeuf, près des Champs-Élysées. Alors, Vian avait déjà combattu les producteurs et il a publiquement dénoncé le film, annonçant qu'il souhaitait faire enlever son nom du générique. Donc Michel, sa femme est venue, tous les amis sont là, mais Boris, que son éditeur Denis Bourgeois a convaincu d'aller à la projection malgré ses hésitations, ignorera toujours ce qu'est devenu son roman à l'écran. Parce que dès le générique de début, quand apparaissent les mots pardon, d'après le roman de Vernon Sullivan, traduit de l'américain par Boris Vian,
il se lève, voilà. Il dit « Ah non !» et s'effondre dans son fauteuil sans connaissance, sous les yeux de Denis Bourgeois et de Jacques Dopin, qui l'ont accompagné à la projection. Alors, on peut préciser aussi qu'il n'a pas vu le film, mais...
Non, il n'a pas vu le film.
Mais il était doublement en colère, parce qu'il avait de gros ennuis avec...
À cause du scandale créé par
le livre. Et deuxièmement, on l'avait quand même prévenu que le film était une version très affadie, très fade du livre. Donc, il était hors de lui.
Voilà, il n'était pas content,
la crise cardiaque.
Voilà. Alors malheureusement, il va mourir avant d'arriver à l'hôpital d'Aennec, à la suite vraisemblablement d'une fibrillation ventriculaire. Alors le collège de pataphysique, dont il faisait partie bien sûr, annonce la mort apparente du transcendant satrape.
Oui, c'était des satrapes, c'était des titres honorifiques, hein, les satrapes.
Voilà. Et publie le 11 Guidouille 86, c'est-à-dire le 25 juin 1959, sa lettre à sa magnificence, le vice-curateur Baron sur les truqueurs de la guerre. Reprise dans Quand il est engelé et Je voudrais pas crever, et qui sera un de ses premiers hommages posthumes. Alors il est enterré au cimetière de Ville d'Avray. Alors il n'y a rien sur sa tombe qu'il a voulu sobre n'indique son identité, hormis des témoignages d'affection laissés par les admirateurs qui y laissent quelques portraits, voire des poèmes. Voilà.
Une fin un peu inattendue, mais bon, en fait,
il avait un gros problème cardiaque depuis tout
voilà.
jeune.
On lui avait dit de ne pas jouer de la trompette, ce qu'il n'avait pas écouté, et ce qui explique la brièveté de sa vie. Hein.
Alors, ce que je vous propose là, c'est d'écouter une nouvelle, qui fait partie du recueil Le Ratichon Baigneur, qui a été publié dans une revue qui s'appelle Dans le train, du 11 juillet 1949. Et donc, la nouvelle s'appelle Un test.
À force de venir à la piscine de Ligny, on finissait par tous se connaître. Les prénoms seulement, naturellement, mais on ne s'embarrassait pas de formules de politesse. Entre hommes, on se flanquait dans le bouillon. D'homme à femme, une claque sur les fesses tenait lieu de cérémonie. Et entre femmes, on bêchait le costume de bain, les jambes ou la cellulite de celle, la bonne copine, qui n'était pas encore arrivée. En gros, c'était sympathique. Il y avait Christian le Marsouin, Georges qui arrivait sur les planches avec une paire de gamirolles à faire crever sa grand-mère de saisissement, et même la grand-mère de n'importe qui. Ops, plus elle était déshabillée, plus elle avait d'accent. Michel l'architecte et Michel le slipréyé. La grande Yvette avec sa mâchoire en pare-choc, selon l'architecte qui avait le don des comparaisons hellénistes. Il y avait Claude Luther qui ne s'arrête de jouer de la clarinette que pour faire du judo ou se mettre à poil au soleil. Nicole, Maxime, Roland, moustache, couvert d'une belle couche de poils noirs et d'une couche de lard bien fournie. Enfin, une vraie mafia. Un qu'on ne voyait presque jamais, c'était Christian Castapioche, le bourreau des cœurs. Forcément, s'il était venu trop souvent, on lui aurait pris son huile solaire. On en faisait une grande consommation, On allait jusqu'à en assaisonner les tomates qu'on chipait à Hobbs et au beau Gilles, le tombeur de l'établissement, que je n'ai pas mentionné plus haut parce que j'étais jaloux. Le meilleur moment, c'était le matin, vers 9h30, 10h, en semaine. Pas trop de monde, de la place pour se faire cuire et de l'eau propre. Justement, ce jour-là, j'avais réussi à me lever, j'arrive, et qu'est-ce que je vois sur les planches?